ces questions-là, effectivement, elles nous ont occupé tout le long des rencontres Michel Serre, puisque qui dit intelligence artificielle, qui dit numérique aussi, dit nouveau régime de temporalité. On pourrait parler d'un hypertemps. On pourrait parler d'un hypertemps, c'est-à-dire un temps qui est généré par le monde numérique, qui est un temps de l'immédiateté, un temps où tout est quantifié en secondes, un temps aussi qui est très nouveau, je trouve qu'on ne le dit pas assez par rapport au numérique, mais un temps qui est de plus en plus un temps à rebours. Les GPS qu'on utilise nous disent qu'il reste 4 minutes 30 pour arriver à destination, ou bien quand on regarde une série, on peut voir qu'il reste 16 minutes et 4 secondes. C'est un temps tout à fait nouveau.
Le terme d'addiction est extrêmement fort. Si on se borne à l'addiction proprement dit, il y a très peu de comportements sur les réseaux sociaux qui en relèvent vraiment. Il y en a sans doute plus en Asie, sur tout ce qui est les groupes de jeux en ligne, etc. Mais en revanche, ce qui est très très répandu, c'est des mécanismes addictifs. C'est-à-dire des mécanismes un peu compulsifs qui relèvent, qu'on ne peut pas très bien maîtriser et qui perturbent en effet qui perturbent la volonté, qui donnent l'impression de perturber le libre arbitre. Moi je fais un peu l'analogie avec la malbouffe. Donc, c'est quelque chose qui nous fait un peu. Qui nous provoque un peu compulsivement, qui donne un sentiment de malaise, qui donne l'impression de perturber un peu notre libre arbitre, une certaine perte d'autonomie, mais ça ne détruit pas notre vie pour autant. Mais ça en fait un peu baisser la qualité, mais c'est toute une zone grise. Parce que l'addiction proprement dit, ça tombe dans la clinique, et ce qui provoque des addictions au sens fort, on peut le réguler, il existe des lois.
C'est pas un temps humain, parce que nous les humains, nous vivons dans une durée qui est projetée vers le futur, mais c'est un temps qui est décompté, qui est vraiment un temps machinique. On vit dans une temporalité nouvelle quand on est dans l'univers numérique. Et c'est pas pour cela que les temporalités anciennes, la durée, le rapport au progrès, le rapport au passé ont disparu, mais enfin, on est dans une agitation différente. Et par rapport à ça, c'est vrai que il y a un art de cultiver le temps long, de cultiver les maturations, de cultiver parfois certaines errances aussi, d'être plus tranquille par rapport au temps, qui est tout à fait nécessaire pour la constitution de soi.
Je me souviens toujours de ma propre expérience quand je suis rentré dans un grand casino de Las Vegas pour la première fois. Il faut vraiment voir, les casinos à Las Vegas ou à Macao, c'est des bâtiments colossaux, c'est énorme. Donc une fois que vous entrez dedans, c'est tellement vaste que vous vous rendez même plus compte que vous êtes dans un bâtiment, et c'est fait de telle façon que vous perdez un peu la conscience de l'endroit où vous êtes, du temps qui passe. En plus, c'est fait de manière à vous égarer, c'est fait pour que vous y restiez, parce que plus vous y restez et plus votre vigilance diminue, plus les occasions de dépenser de l'argent se multiplient. Alors moi, j'arrivais là-bas en me disant, il ne faut pas que je perde de l'argent, donc il ne faut pas que je joue. Mais il y avait plein d'autres manières de perdre de l'argent dans le casino. Ça vous vend vous avez plein de petites boutiques qui vous vendent des trucs inutiles, trois fois plus cher qu'ailleurs. Au bout d'un moment, vous finissez par en acheter. Je suis sorti du casino avec un tour de Las Vegas en hélicoptère à $350 qui a duré 5 minutes, qui était une vraie arnaque. Vraiment, et l'interface du réseau social, ça fonctionne un peu comme ça. C'est comme une espèce de casino géant que vous emportez avec vous, qui brouille votre espace-temps et qui est là pour vous maintenir, pour vous faire rester. Avec quand même deux choses différentes, c'est que le casino, il faut quand même prendre la décision d'y rentrer. Vous n'avez pas besoin d'y rentrer pour faire vos courses, vous n'avez pas besoin d'y rentrer pour tous les actes de votre vie. Or, il y a énormément de biens, de services auxquels vous accédez à travers le réseau social. Donc c'est un casino portatif, invisible, et dans lequel une grande partie des besoins quotidiens sont satisfaits, ce qui est assez pervers.
comprendre qu'effectivement, un système, c'est un lieu où il y a des endroits pour s'asseoir. Dehors, on ne s'assied pas beaucoup, mais dans le système, on a...
Et selon où on s'assoit d'ailleurs.
Ouais. Selon où on s'assoit, c'est-à-dire qu'il y a des marqueurs dans une entreprise par exemple, dans un bureau, on ne peut pas s'asseoir n'importe où, et il y a des chaises qui sont réservées, des sièges qui sont réservés, etc. Et finalement, là, le système offre de la place. Et un système, c'est bien cela qu'on lui demande, c'est offrir de la place. Alors un autre marqueur qui est important, c'est la vitre, le verre plat. Le verre plat. Alors, peut-être qu'ici à Agen, c'est un peu moins important.
Si les fenêtres sont ouvertes.
Les fenêtres sont ouvertes et on peut ouvrir les fenêtres en novembre. Je suis un homme du Nord et donc les fenêtres sont beaucoup, beaucoup plus souvent fermées et la vitre marque la différence entre le monde du dehors et un intérieur qui est l'intérieur de la bulle, l'intérieur du système où règne une certaine régulation atmosphérique, soit le chauffage, soit l'air conditionné. Et puis, un troisième marqueur qui s'ajoute à cela, la vitre protégeant, eh bien c'est l'écran, évidemment. C'est l'écran, et dans le système, il y a des écrans partout. Et travailler, c'est très souvent être assis du côté de la vitre où règne l'air conditionné devant un écran. C'est ça, la bulle. C'est ça, la bulle, avec toute une série d'avantages. Il ne faut pas l'oublier, le système, il est là pour protéger, pour donner des places, pour créer un réseau de communication extrêmement, extrêmement riche, mais il nous sort de ce monde naturel. Le rapport au monde est plutôt axé sur quelque chose comme la contemplation, quelque chose comme des relations lentes avec le monde, tandis que dans le système, bon, on est là dans l'interaction rapide, on est dans un monde de consommation aussi. Consommation versus, contemplation. Et je trouve que c'est vraiment important de se rendre compte d'abord du côté positif de ces systèmes.
Oui, parce que vous disiez hier que c'était fantastique. Enfin, voilà, c'est quand même fantastique le fait d'avoir le monde à portée de main comme ça.
Évidemment.
Si on programme l'algorithme de telle façon à vous envoyer des contenus auxquels vous réagissez, ça peut être des contenus qui vous énervent. Hein, vous restez plus longtemps et ils ont construit un peu leur modèle comme ça. Mais ce qui ne veut vraiment pas dire que les automatismes, c'est mauvais. Parce que les automatismes, c'est aussi la base de la liberté. C'est ce qui permet de libérer de la charge mentale. Mais toute la question, c'est être libre. C'est pas faire à un moment donné ce qu'on a envie de faire. C'est construire dans la durée la personne qu'on veut être. C'est donc sculpter ces automatismes pour qu'ils soient en phase avec la façon dont on a envie de réagir. Et pour ça, il faudrait justement avoir prise sur la manière dont les réseaux sociaux conditionnent nos automatismes. Il faudrait qu'on puisse s'en servir pour s'orienter vers qui on veut être. Alors que là, c'est le réseau qui nous oriente vers celui qu'il a envie qu'on soit pour lui rapporter le plus d'argent possible.
Évidemment, parfois on entend des critiques faciles de notre monde technique, de notre monde où il y a une logistique et une économie quand même très très fluide. Bon, il ne faut pas rire, nous sommes d'abord les bénéficiaires dans ces grandes bulles, qui sont en plus des bulles relativement pacifiées dans notre Europe. relativement pacifié par rapport à tant et tant d'autres pays où soit la violence, soit le conflit, soit véritablement la guerre règne. On a réussi à avoir des bulles qui sont structurées par un état de droit et par des valeurs auxquelles on adhère très très globalement. Ce sont des bulles dont on pourrait dire qu'elles sont des bulles d'abondance, de relative abondance. Et c'est là que toute philosophie est aussi une philosophie critique. Il faut comprendre les fragilités, les vulnérabilités, les productions d'injustice dans ces systèmes. Et il faut aussi comprendre qu'ils sont le lieu de toute une série d'addictions et de choses qui finalement ne sont pas très intéressantes.
Quand j'étais adolescent, le monde extérieur, enfin, le monde globalement, il s'arrêtait là où s'arrêtaient mes yeux. Alors, il y avait des moments, le journal, il y avait le journal télévisé, il y avait des choses comme ça qui donnaient des fenêtres vers le monde lointain, mais je n'avais pas accès et conscience, présence en permanence de ce qui se passait ailleurs dans le monde. On ne me rappelait pas en permanence que ailleurs, d'autres gens vivaient au même moment. Et à partir du moment où on se rend, non seulement c'est même pas qu'on se rend compte de ça, mais qu'on l'intègre dans notre existence quotidienne, ça transforme l'expérience existentielle, mais vraiment très très fortement.
Oui, comme tout parent, j'ai été éduqué par mes enfants. Je pense que ça va toujours dans les deux sens, l'éducation. Et mes enfants m'ont bien fait comprendre, ils ont 14-15 ans, ils m'ont bien fait comprendre que les discours qu'on entendait, les discours adultes, vous êtes tout le temps sur vos écrans, vous êtes complètement addict, etc., étaient des discours qui étaient tout de même teintés d'une certaine hypocrisie, parce que très souvent, quand les parents le disent, ils sont eux-mêmes branchés sur leur smartphone, et puis c'est pas comme si l'individu avait chacun choisi d'être en permanence sur son téléphone. Il y a quand même des puissances et des nécessités qui font que énormément de nos interactions passent par l'objet numérique. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est entièrement libre de se débrancher ou de se débrancher très très longtemps. C'est un coût social très 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 important.
Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un hors du monde, ça fait partie du monde, ça s'inscrit dans le monde de manière de plus en plus naturelle d'ailleurs, avec les commandes vocales et autres. Et simplement, c'est des bouts de monde qui fonctionnent avec des logiques différentes et souvent des logiques qui sont configurées d'ailleurs pour des raisons économiques. Je pense qu'il y a un rapport très ambivalent avec le corps. Parce qu'en même temps, pour le moment en tout cas, c'est vrai que ça nous sépare d'une dimension motrice, sensorielle. Ça nous attire dans un espace qui est plus pauvre sensoriellement, globalement, qui nous fait oublier notre motricité. Alors ça, ce sont des dimensions essentielles, donc il y a des risques par rapport à ça, mais je pense que ça révèle aussi beaucoup de choses de notre corps que nous ne connaissions pas.
On crée des mondes de bulles, c'est vrai, avec un immense problème, c'est que ces bulles peuvent devenir aliénantes. Ces bulles peuvent devenir aliénantes, elles peuvent happer finalement, aspirer. Un lycéen hier disait, mais on a l'impression parfois que l'âme est aspirée.
La plupart du temps, on a plutôt tendance à formater de plus en plus le travail pour qu'il colle avec l'IA. Il y a des vrais effets de perte de maîtrise sur son travail, de perte de compétences. Et puis, il y a la question de la perte de la capacité de décision politique. Vous pouvez avoir des systèmes, même si vous n'allez pas avoir des super intelligences de type Skynet, vous pouvez avoir des systèmes suffisamment puissants pour qu'on leur confie de vraies décisions politiques à prendre, pour qu'on leur dise ben, quelle est la politique à faire pour faire baisser le chômage ou autre. Et ça, ça risque de se répandre de plus en plus, cette forme de gouvernance algorithmique.
On a l'impression que nos âmes sont aspirées. Alors je crois que les âmes, elles sont toujours aspirées dans l'existence. Et ça dépend par quoi. Elles peuvent être aspirées par autrui. Et quand ça se passe vraiment très très bien, ça s'appelle l'amour. L'aspiration de l'âme dans une relation amoureuse. On peut avoir son âme qui est aspirée par le dehors, une promenade, la contemplation d'un paysage. La lecture aussi est quand même un moment de dépersonnalisation où on a l'impression de s'oublier soi-même. Quand on est assez loin dans le livre, quand on a l'impression de s'oublier soi-même et de vivre la vie des personnages. Ce sont des moments d'aspiration de l'âme. Il peut y en avoir un autre qui est ce moment tout à fait particulier où on ne sait plus trop ce qui se passe et on est en train de pianoter pendant des heures et des heures ou de regarder des vidéos sans se souvenir de ce qu'on a vu il y a 3 minutes, 4 minutes. Quand il y a un déséquilibre, quand il y a un excès radical, effectivement on peut à bon droit parler d'addiction. Et à la fois il y a l'entourage et puis à la fois il y a l'individu qui doit savoir, là je perds du temps, je perds vraiment mon temps.